France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midis de Culture, deuxième partie. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. À 13h, Jeanne Chéral sera avec nous pour parler de son dernier album. Mais d'abord, c'est le Point Culture. Bonjour Marie Sorbier.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors, connaissez-vous l'IMEC ? Je crois que oui. Hein.
Oui, ouais. Moi j'ai travaillé à France 3 Normandie.
Voilà, ben justement, cette abbaye à côté de Caen en Normandie, c'est là où on se trouve des milliers de manuscrits d'écrivains qui sont archivés dans les sous-sols, réservés aux chercheurs. Ces brouillons sont essentiels pour comprendre la construction d'un texte, le cheminement d'un auteur. Un documentaire actuellement disponible sur France TV propose une immersion à l'IMEC et explore les manuscrits raturés, genèse des chefs-d'œuvre, l'éloge de la rature. C'est le dossier du Point Culture du jour. Stéphane Miquel, bonjour.
Bonjour, Marie Sorbier.
Dans le documentaire « Éloge de la rature » que vous avez co-réalisé avec Lucie Laout, que l'on peut voir d'ailleurs en ce moment sur France TV, et ce jusqu'au 15 mai, vous nous emmenez à l'IMEC, l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet endroit ?
Alors l'IMEC, l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine, c'est un lieu où sont archivés les brouillons et les manuscrits d'écrivains contemporains du XXe et XXIe siècle. Donc c'est un lieu où on réceptionne les archives, on les trie, on les classe, on en fait l'inventaire et ensuite on les met à la disposition des chercheurs et des chercheuses du monde entier.
Et c'est un lieu qui se trouve en Normandie.
Voilà, c'est un lieu qui se trouve en Normandie. Sa particularité, c'est qu'il est installé dans une abbaye médiévale. Donc c'est un lieu absolument sublime. C'est très beau, c'est ouvert au public. Pas pour ce qui concerne les archives, car les archives sont réservées aux chercheurs, mais par contre, les bâtiments, les jardins sont ouverts au public. Alors c'est un lieu magnifique.
C'est un lieu magnifique, mais c'est aussi un lieu très grand. On apprend dans le documentaire que les rayonnages font 18 km, ça semble un peu fou.
Oui, c'est vrai, il y a 18 km de rayonnage. Alors ça se passe dans les sous-sols de l'abbaye, donc là c'est vraiment réservé uniquement aux archivistes. Et c'est un lieu qu'on a eu la chance d'aller explorer. On a pu filmer ces entrailles un peu étranges et magnifiques encore une fois.
Alors pourquoi l'IMEC pour parler de la rature ? Puisque le sujet du documentaire, c'est vraiment la rature et les brouillons des écrivains. Pourquoi avoir choisi l'IMEC comme lieu pour tourner ce documentaire-là ?
Écoutez, l'IMEC, c'est le lieu idéal. Nous, on a inventé une narratrice qui a l'angoisse de la page blanche, qui ne supporte pas ses propres ratures, et qui va faire un voyage pour explorer les manuscrits des autres, les brouillons des autres, et donc les ratures des autres. Et à l'IMEC, on trouve des manuscrits d'Edgar Morin, de Marguerite Duras, de Violette Leduc, de tant d'autres. Et c'est là qu'elle va pouvoir explorer ces manuscrits, interroger ces ratures, les ratures des autres, et puis faire des rencontres, rencontrer des archivistes, rencontrer des chercheuses, rencontrer des écrivains qui sont en résidence à l'IMEC, car il y a des écrivains en résidence à l'IMEC.
Au début du documentaire, on découvre un manuscrit inconnu d'Edgar Morin. Alors, c'est un roman qu'il a écrit quand il avait 26 ans et que lui pensait totalement perdu. Ça donne quand même une idée des trésors que recèlent ces fameux 18 km de carton de l'IMEC.
Chaque archive d'écrivain recèle des trésors, inattendus. L'histoire d'Edgar Morin, elle est extraordinaire, puisque Pascale Butel, qui est directrice des collections à l'IMEC, qui était archiviste à l'époque, au début des années 2010, 2011, je crois, elle a retrouvé dans les archives d'Edgar Morin, vous imaginez, les archives d'Edgar Morin, c'est considérable, son œuvre est considérable. Elle a retrouvé des brouillons et un manuscrit complètement oublié. Le seul roman que Edgar Morin ait jamais écrit, il l'a écrit après la guerre. Elle l'a reconstitué, et puis, au moment où tournait le film, le manuscrit, 75 ans après, a été publié. Donc ça, c'est une des histoires qu'on trouve dans notre film.
Alors dans votre film, on voit aussi les chercheurs du monde entier dont vous parliez qui viennent consulter les brouillons, alors par exemple de Duras ou de Jean Genet. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces chercheurs ?
Écoutez, je crois qu'ils cherchent à reconstituer l'origine, à reconstituer le cheminement. Ce qui est très important avec la rature, c'est de dire qu'il n'y a pas d'origine pure. Il n'y a pas de texte qui surgit in extenso sur le papier, il y a tout un cheminement. La rature, c'est la preuve d'un cheminement de la pensée. Et ce que les chercheurs cherchent à faire, c'est à reconstituer ce cheminement. C'est foisonnant, dans le documentaire, le généticien du texte, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la genèse des textes, Pierre-Marc de Biasi, il parle d'une jungle. Il dit qu'il s'enfonce dans une jungle. Je crois que c'est ce plaisir de l'aventure qui les guide.
En termes d'image, comment est-ce que vous avez choisi de filmer ces ratures ? Parce que alors, ce sont des manuscrits, on voit beaucoup de pages blanches ou jaunies un peu par le temps, avec soit de l'écriture manuscrite, soit corrigée à la main sur de l'écriture à la machine. Mais visuellement, ça donne presque parfois des tableaux ou des œuvres. On a l'impression que plastiquement, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est aussi ce que vous aviez voulu montrer dans ce documentaire, la beauté finalement des ratures ?
Absolument, c'est ce qu'on est allé chercher. On a essayé de filmer au plus près de la matière. On a essayé de suivre les ratures vraiment en resserrant au maximum. On a essayé de faire cette exploration. Et c'est très important de dire à quel point c'est beau la rature. Il y a la poétesse Lisette Lombé dans notre film. Elle dit que la rature, ça n'est pas un échec, c'est une promesse d'émancipation, une promesse de liberté. Mais elle dit aussi à quel point ses propres ratures, elle les trouve esthétiques. Et donc oui, il y a une dimension esthétique très forte dans la rature. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on peut penser que avec l'écriture numérique, cette esthétique va disparaître puisqu'il n'y aura plus de papier. Mais en fait, on se rend compte que les écrivaines et écrivains d'aujourd'hui, ils continuent à travailler sur papier. Ils demandent toujours des épreuves imprimées pour pouvoir les recorriger. D'abord parce que ça leur donne une autre perception de leur propre texte. Donc on continuera à avoir des ratures sur manuscrits et on continuera à pouvoir les montrer et, pour ce qui nous concerne, les filmer.
Vous avez choisi d'ouvrir et de terminer ce documentaire avec des enfants dans une école primaire. Vous leur parlez des ratures. Pour eux, dans ratures, il y a cette idée de rater quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Ils parlent aussi d'une façon de chercher son mot, c'est-à-dire de trouver peut-être un mot plus adéquat. Donc on barre et on cherche un nouveau mot. Pourquoi avoir voulu intégrer cette partie scolaire dans ce documentaire ?
En fait, on est parti d'une expérience personnelle qu'a vécue Lucie Laout, la co-autrice et co-réalisatrice. Quand elle était enfant à l'école, un instituteur lui a dit « Vous faites de très vilaines ratures et vous tenez votre stylo comme un poignard. » Donc, ça donne pas très envie d'écrire. Ça inhibe un peu. Et je pense que ce petit trauma, on l'a tous un peu vécu. C'est-à-dire, à l'école, écrire bien, ça veut dire écrire sans rature. Et on a voulu retrouver ce chemin de l'enfance à travers des enfants d'aujourd'hui dans une école primaire de Normandie, en leur posant la question toute simple, à quoi ça sert les ratures ? Et là, on a effectivement des réponses amusantes, mais aussi très sensées. Et la rature, ça sert pour eux aussi à peaufiner un texte, à le ciseler, à trouver la bonne expression. Donc oui, on voulait faire le lien entre l'enfance et puis les grands chefs-d'œuvre d'une certaine manière.
Bien, merci beaucoup Stéphane Miquel. Je rappelle que votre documentaire Éloge de la rature est visible sur France TV jusqu'au 15 mai. Merci.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, un nouveau partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris.
Oui, l'initiative vise à réintroduire la culture et le patrimoine dans le parcours de soins pour améliorer le bien-être des patients. Elle propose des visites de monuments adaptés à leurs besoins ou des visites guidées à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Des ateliers à l'hôpital et des activités intergénérationnelles vont aussi être organisées. Dès cette année, 13 services hospitaliers seront concernés. Le premier projet sur mesure associe l'hôpital Paul Doumier et le château de Pierrefonds dans l'Oise.
Le prix Fragonard de littérature étrangère a été remis à Amira Ghenim et sa traductrice Swad Labiz.
Depuis 4 ans, ce prix récompense chaque année un ouvrage écrit par une femme et traduit en français. Il a été décerné hier soir à l'autrice tunisienne pour son livre Le désastre de la maison des notables, publié aux éditions Philippe Ré. Le roman fait le récit du destin croisé de deux familles tunisiennes dans les années 1930. Le prix est doté d'un montant de 5000 euros pour l'autrice et de 2000 euros pour la traductrice. La maison Fragonard, qui porte ce prix littéraire, offre également à l'autrice une résidence de 8 jours à Arles, dans la maison d'hôte du parfumeur.
Une nouvelle directrice au musée de la chasse et de la nature de Paris.
Oui, elle était directrice des musées de la ville du Mans depuis 2019. Après avoir travaillé au musée de Normandie pendant 17 ans, la conservatrice en chef du patrimoine Alice Gandin prendra la place laissée vacante par Christine Germain-Donat, qui a rejoint, elle, le ministère de la Culture. La nouvelle directrice a déclaré que l'approche du musée de la chasse et de la nature est unique et l'évolution de la situation environnementale rend son propos incontournable.
Et pour finir, Marie, le festival Quai du Polar commence aujourd'hui.
Oui, pour sa 21e édition, le festival lyonnais consacré au polar et au roman noir aura pour thème cette année la frontière. Jusqu'à dimanche, rencontres, tables rondes et échanges feront la part belle à la littérature de genre. 135 autrices et auteurs de 17 nationalités différentes seront présents. Parmi eux, Sandrine Collette, autrice de Madeleine avant l'aube, chez Jean-Claude Lattès, un prix Goncourt des lycéens cette année, ou Benjamin Dierstein, lauréat du prix Landerneau Polar. Le festival, qui se déploie sur des dizaines de lieux à Lyon et dans sa région, fera également des incursions vers le cinéma et le théâtre. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les informations sur la page du Point Culture.
Merci Marie, et nous on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités
bon
culturelles.
Bon week-end Marie.
Bon week-end, il est 13h et vous êtes sur France Culture.